Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, 89, un prisme brisé, point d'interrogation. Pouvons-nous, aujourd'hui, en 2019, encore nous orienter à travers ce que 89 a signifié? Un 89, plusieurs 89. Il était inconcevable pour moi, 30 ans après 1989, de se poser cette question sans ce qui a accompagné les années 80 et 90, en France et dans le monde, l'épidémie du sida, et ce qu'elle nous a fait, pour reprendre déjà le titre, indirectement, le titre du livre d'Elisabeth Lebovici, avec laquelle nous allons discuter ce soir. Un prisme brisé. Ce soir donc, je suis très heureux de recevoir Elisabeth Lebovici, historienne d'art et critique d'art, auteur du livre intitulé « Ce que le sida m'a fait », qui traite du sida et des pratiques plastiques, des pratiques d'expression, de l'art et des discours qui l'ont accompagné dans les années 80 et 90 et jusqu'à nous aujourd'hui. Elisabeth Lebovici, merci d'être là ce soir.
Bonsoir Frédéric Worms.
Bonsoir à vous et merci encore d'être là. Donc vous allez me dire si vous êtes d'accord avec la manière un peu rapide dont j'ai présenté à la fois le thème de cette semaine et puis la question dont vous traitez dans votre livre, et s'il y a un lien entre la question de votre livre et le cadre de cette semaine, à savoir 89, entre guillemets. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien. Vous ouvrez l'un des chapitres de votre livre, un très beau chapitre d'ailleurs, par une phrase un peu sibylline. Vous dites « Je ne me souviens de rien des années 1980 ». Des années 80.
Oui.
Et au fond, alors pourtant, votre livre est entièrement situé dans les années 80-90.
Oui.
Avec 89 comme un point aveugle au milieu, un point obscur.
Absolument.
Voilà. Mais là, je ne me souviens de rien. Est-ce que cet oubli fait partie du problème, Elisabeth Lebovici?
Pardon, je vous ai coupé. Bien sûr, ça fait évidemment partie du problème. Je crois qu'il y a eu d'abord, historiquement, une phase d'oubli très grande, de ce que l'épidémie du sida a fait aux années 80-90, et ce qu'il fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, ce qu'elle fait toujours aujourd'hui, l'épidémie. Mais et donc effectivement l'oubli précède peut-être ce moment qu'on peut situer il y a quelques années, où tout d'un coup on s'est mis à reparler, tout du moins à essayer de, non pas de faire une histoire du sida, mais de revenir sur ces années et sur peut-être l'importance qu'elles ont eue. Ça a été, écoutez, c'est pas compliqué, mon livre est sorti à peu près en même temps que le film de Robin Campillo.
Donc fin 2017.
Oui, 2017, mi-2017.
Et donc en même temps que ce film, dont il y avait un certain nombre de battements par minute,
oui,
mais j'ai oublié à chaque fois, 120 battements par minute.
120. Mais il y avait eu d'autres choses précédemment, je crois que...
Un film très important comme votre livre d'ailleurs.
C'est un film très important. Il a fallu effectivement 30 ans pour cesser d'oublier. Et quand je me suis mise à écrire ce livre, effectivement, je me suis aperçue, enfin que je n'avais rien oublié, bien sûr, on sait bien qu'on n'oublie rien, mais effectivement, il y avait eu cette période, je pense, d'amnésie. En tout cas, l'accueil qui a été fait à ce livre, comme surtout l'accueil qui a été fait au film, a été quand même un accueil d'une génération qui ne savait rien et qui était donc pas d'emblée amnésique avant d'avoir à se souvenir. Donc je pense effectivement, enfin, c'est quelque chose que j'ai voulu marquer à l'intérieur du livre, c'est-à-dire que il y avait effectivement cet oubli, peut-être cette volonté aussi d'oublier ces années-là pour continuer, pour aller de l'avant, pour survivre, pour faire des choses, et que cet oubli était peut-être non pas nécessaire, mais en tout cas il précédait une période d'anamnèse.
Mais est-ce que pour vous, Elisabeth Lebovici, cet oubli qui peut avoir de multiples raisons, aussi bien politiques, de refoulement collectif, individuel, d'oubli de périodes douloureuse, est-ce qu'il est aussi lié paradoxalement à ce souvenir de 89, à cette image un peu soit d'un côté idéalisée des droits de l'homme, soit au contraire diabolisée des années 80 avec un cortège de néolibéralisme en général, j'allais dire, de crise masquée. Est-ce que c'est ce 89 qui, au lieu d'éclairer ces crises qui annoncent celle d'aujourd'hui, comme l'épidémie de sida, est-ce que c'est ce 89 qui l'aurait masqué? Est-ce que vous feriez un lien, comme je l'ai fait peut-être un peu vite, entre 89 et cet oubli?
Je pense que 89 est une date importante. On va en parler tout à l'heure. J'ai fait une chronologie quand même, même si mon livre n'est pas du tout chronologique. Il se trouve que j'ai fait une chronologie qui est sur Internet et que
Je l'ai. Il y a un site qui complète votre livre.
Voilà. Et sur ce site, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui me paraissent importantes de raconter. Si vous voulez, je pense que il y a autre chose. Si je ne me souviens pas des années 80, c'est parce que pendant les années 80, je crois que j'ai été dans un moment de sidération, dont j'essaye de parler. Ce moment de sidération qui, je crois, est tout à fait commun à toute personne qui connaît un événement considérable, un choc considérable, un traumatisme considérable, et que cette période de sidération, pour moi,
par définition inattendue, et qui submerge parce qu'il survient sans prévenir et même en contredisant les attentes de l'époque.
Exactement. Donc 80, un moment qui supposément très heureux, etc. Et dès le début des années 80, il y a effectivement autour de nous, autour de moi, un certain nombre de personnes très proches qui tombent malades et qui meurent. Mmh. Et que qu'on aide, qu'on pense, dont on s'occupe. Et ce moment donc des années 80 est un moment où on est frappé d'un choc qui comprend peut-être cet oubli, où on est vraiment dans un état de choc, de sidération, où on est incapable de penser. Et donc,
Donc il faut du temps pour réaliser qu'on en a oublié. Et finalement, c'est la première condition pour se souvenir.
Voilà. Et donc, on pourrait dire que la première condition pour se souvenir, et ce souvenir arrive à peu près avec les années 89-90, en tout cas dans mon cas, je crois, ici en France, puisque en 1989, c'est la création d'Acte Paris, c'est pas pour rien non plus.
C'était... En 1989,
oui,
précisément.
Absolument.
Au moment du bicentenaire de la Révolution
absolument,
française.
Absolument.
Donc Acte Up qui est quand même incarné beaucoup de choses, mais aussi finalement ce qu'on associe à juste titre à l'épidémie de sida maintenant, c'est-à-dire l'émergence des patients comme sujet actif, de la revendication
exactement.
De droits
des
malades.
Exactement.
Et donc finalement, dans cette tension toujours avec les droits de l'homme peut-être aussi. Et donc ACT UP, je ne m'en souvenais pas, est vraiment daté de 89
absolument.
Précisément.
À Paris. À New York, il a commencé en 87. Mm-hmm. Aussi pour un certain nombre de raisons que j'essaye de raconter dans le livre, qui sont que il y a eu en 86 la Cour suprême a pris une décision qui trouvait normale que la sodomie soit interdite dans un certain nombre d'États et qui a donné lieu à un immense flot de manifestations un peu partout. Et qu'ACT UP, je pense, un mouvement d'activistes de lutte contre le sida, c'est adossé à ces manifestations de l'été 87 pour naître. Donc en 89, peut-être qu'effectivement, il y a cette espèce de contre-emploi de l'année des droits humains, des droits de l'homme, comme on disait alors
aujourd'hui, les droits des êtres humains.
Les droits des êtres, oui, voilà, le droit des êtres humains.
Ouais.
Tout d'un coup, pour mettre quelque chose... Je crois qu'ACT UP fait une chose, effectivement, c'est les malades qui sont dans la rue, d'un certain point de vue, qui sont au centre de la discussion et qui restructurent la discussion, qui lui donnent une autre représentation que celle qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Mais je pense que c'est aussi une façon de voir un certain nombre de personnes qu'on s'efforce de cacher dans la société. Alors, les homosexuels, les drogués, comme on dit, et puis un certain nombre d'autres communautés qui sont complètement stigmatisées et invisibilisées par le sida. Et que je pense qu'avec les mouvements activistes comme ACT UP, parce qu'il y a d'autres mouvements qui sont nés avant, il y a AIDE, évidemment, qui est le plus en nombre, le plus gros contingent de personnes qui sont actifs et actives dans la lutte contre le sida. Et puis il y a eu d'autres mouvements avant, mais ACT UP c'est ça. C'est effectivement tout d'un coup de donner à voir, de rendre visible, tout d'un coup on ne peut plus faire l'économie de ces personnes qu'on voit et qui tout d'un coup deviennent des sujets politiques.
Mais alors justement, Elisabeth Lebovici, il me semble qu'il y a une tension et que votre livre la restitue très bien, y compris sur le fond, j'allais dire presque, c'est des termes un peu pompeux, de philosophie de l'histoire.
Oui.
C'est-à-dire de cadre très général, entre d'un côté une lutte pour des droits qui pourrait s'inscrire dans l'horizon des droits droits de l'homme, oui, du citoyen ou des droits humains. Voilà, il faut d'ailleurs réfléchir sur la manière de les nommer, mais qui pourrait aussi se vivre au contraire comme l'émergence d'une toute autre lutte, de lutte plutôt justement sans lien avec un arrière-plan général, des droits en général ou de la démocratie. Et à un moment crucial de votre livre aussi, en parlant d'une exposition AIDS Timeline, qui, oui, est une exposition dont vous allez peut-être décrire, mais, oui, aussi des œuvres plastiques très précises, oui, des gestes esthétiques, oui, très forts que, oui, vous décrivez dans le livre. Vous dites que cette exposition, je vous cite, il n'est pas indifférent que cet événement advienne au musée en 1989, alors que la chute du mur de Berlin prouve l'incapacité des grands récits à organiser le monde. Donc j'ai l'impression que dans votre livre, 1989, la chute du mur de Berlin, pour vous, ça n'est pas une étape dans une sorte d'histoire des droits, c'est plutôt la fin des grands récits. Il y avait une tension à l'époque là-dessus.
Bien sûr.
Et donc, on arrive dans des combats un peu locaux, un peu dispersés. Il y a ces deux interprétations possibles.
Oui.
De laquelle est-ce que vous vous sentez la plus proche, Elisabeth Lebovici, par rapport à ce lien entre 89 et le sida, les droits des patients?
Alors écoutez, moi je crois que ce qui est très intéressant, c'est les contradictions. Donc je pense qu'il faut se situer dans cette contradiction. Donc c'est à la fois une prise de conscience de la lutte d'un certain nombre de minorités pour leurs droits, et comme on le sait, parce que c'est le féminisme, je crois, qui nous l'a appris, pour lutter pour des droits universels, il faut se séparer de l'universel et revendiquer ces droits puisqu'on les a pas. Hein. Mm-hmm. C'est ce qui se passe dès 1789. Mm-hmm. Avec Olympe de Gouges notamment. Enfin, je veux dire, c'est ce moment où effectivement, quand on est exclu des droits universels, il faut se séparer de l'universel,
oui,
pour revendiquer.
Donc, c'est vrai, mais il y a deux manières de le faire, en critiquant l'universel ou au contraire en s'en revendiquant dans ce détour même, c'est-à-dire en le maintenant, en disant qu'il ne peut se réaliser qu'à concrètement à travers les femmes, les homosexuels, les prisonniers, les patients, etc. Mais on peut le faire au nom de l'universel, ou bien au contraire, en essayant de le critiquer.
Alors, je pense que c'est quand même une grande critique de l'universalisme, hein, la lutte contre le sida se situe dans cette grand moment de critique de l'universalisme. Je prends le cas précis, on va parler précisément de cette AIDS Timeline, qui donc a été produit dans plusieurs musées, et sous forme d'ailleurs magazine, on va en reparler, ouais, par ce groupe très intéressant, qui s'appelle Groupe Matériel. Moi, je crois qu'ils font quelque chose de tout à fait important et d'extraordinaire.
AIDS
Alors,
Timeline.
Ça veut dire chronologie du sida.
Voilà,
ouais,
AIDS,
c'est une chronologie.
C'est l'acronyme anglo-saxon pour le sida.
Oui.
Et Timeline, c'est la chronologie.
Voilà. Donc, ils vont, ça va être finalement, c'est intéressant aussi pour nous, le premier moment où on va réfléchir sur une chronologie. Et au lieu de réfléchir sur une chronologie linéaire, on pourrait dire, qui commencerait en, je ne sais pas, par exemple, 1980 ou 81, puis qui se terminerait donc en 1989, puisqu'on est en... le groupe de groupe matériel va déjà la faire à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est produit, c'est une exposition où on part de 1980.
On part du présent.
Voilà, on part du présent.
Et à rebours.
Et à rebours, on descend vers 1981. Alors, je reviens un tout petit peu sur 1980-81, qui est donné comme la date officielle du début de l'épidémie. Mais on sait très bien, déjà en 89, que c'est une date fausse.
Arbitraire.
Arbitraire, disons. Complètement arbitraire. Et que des cas de sida, il y en a eu bien avant. Hein? Donc, quand même, ça veut dire que ça scelle une certaine version de l'histoire. Et ce que ne manque pas, évidemment, de remarquer Groupe Matériel, puisque je crois que... Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire cette chronologie et ils vont produire plusieurs registres. Ils vont produire le registre de ce qu'on pourrait peut-être appeler des faits, hein, avec des informations sur le nombre de morts, sur le nombre de séropositifs, sur un certain nombre de gestes qui sont et qui ne sont pas faits dans le champ médical, sur les découvertes médicales, sur les articles de magazines. Alors déjà, il y a un petit glissement, hein. Qu'est-ce que c'est des faits?
Des matériaux très différents.
Des matériaux très différents.
Ici, oui.
Et puis, il y a un autre registre qui est celui des œuvres, hein. Donc, il y aurait d'un côté le domaine des faits, le domaine de la fiction. Mais on voit d'emblée que ces deux registres se mélangent. Et est-ce que finalement un tableau n'est pas plus un fait qu'une information qui est donnée par, eh ben, une certaine voix qui l'énonce, hein, une voix officielle par exemple, une voix institutionnelle qui va énoncer une certaine vérité qui peut aussi se révéler complètement erronée, comme on dit aujourd'hui. Donc, en fait, ça va être un tableau chronologique, mais qui est pas du tout chronologique, parce que ils vont s'amuser à mettre des œuvres qui ne datent pas du tout de la période qui sont supposées illustrées. Par exemple, je crois que une des premières œuvres qu'on voit, c'est une édition arc-en-ciel par un artiste du Choc du futur d'Alvin Toffler. Bon, le Choc du futur,
un livre de futurologie standard, j'allais dire.
Absolument, mais qui n'a pas du tout été publié en 81. Mmh. Et pourtant, elle est mise en 81. Ça veut dire que tout d'un coup, cette chronologie va être complètement déroutée de sa linéarité.
Mais alors, Elisabeth Lebovici, avant de revenir sur les contenus, je voudrais revenir sur le cadre général que vous décriviez. Vous êtes historienne de l'art et vous étudiez l'histoire de l'épidémie de sida à travers les œuvres artistiques, justement. Oui. Et là, vous décriviez cette exposition qui mêle des matériaux très différents et vous dites donc qu'elle introduit dans le musée l'histoire événementielle, le papier de journal, la caricature, le panneau de manifestation, le livre, le témoignage, etc.
Et dans
la musique dans le musée, dans l'histoire du présent, finalement, c'est très important. Oui. Mais alors, ce que vous venez de dire, on peut l'interpréter de deux façons. Ça peut être une contestation des faits scientifiques, ou en tout cas de la manière dont ils sont présentés, ou bien ça peut être, pour vous qui êtes historienne de l'art, l'intégration de l'expression humaine dans le domaine des faits objectifs. C'est-à-dire, finalement, l'histoire du sida, c'est la maladie, c'est aussi les déformations politiques, mais il y a aussi des faits scientifiques avérés, pour justement pas tomber dans les fake news totalement. Voilà. Il y a les discours politiques, et puis il y a les expressions des patients, et finalement, c'est une légitimation aussi, et tout votre livre est une légitimation de l'idée. La maladie, c'est aussi l'expression humaine de la maladie.
Absolument. Bah, c'est intéressant, parce que c'est pas pour rien que l'auteur collectif de cette chronologie s'appelle groupe matériel.
C'est un collectif déjà.
C'est un collectif et matériel, ça veut dire matériel. Mmh, on peut aussi interpréter donc les œuvres d'art comme un certain nombre de matériaux, comme de la matérialité. Mmh. Et la matérialité, elle est aussi un fait. Elle est aussi factuelle que les informations qu'on veut bien nous donner ou que les faits scientifiques. Et donc, effectivement, je crois aussi que c'est une toute autre appréhension de la texture même de l'art qui nous est donnée à voir ici. Tout d'un coup, effectivement, il y a de la matérialité. Et vous disiez tout à l'heure quelles sont les expressions plastiques de la maladie, mais aussi quelles sont les maladies des expressions... Enfin, je veux dire, on peut renverser les choses. C'est-à-dire que mon hypothèse pour faire ce livre, c'est que tous les arts ont été affectés par l'épidémie du VIH, de loin, peut-être sans s'en apercevoir, ou de très près, comme groupe matériel qui a décidé d'y consacrer une grande partie, s'en saisir et d'y consacrer une grande partie du travail. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant et qu'on peut étudier pour 89, justement, et pour ce moment-là. Ça se passe au musée de Berkeley, donc un musée universitaire. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont mis à contribution et ils sont interpellés directement. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour groupe matériel, effectivement, l'expression...
Donc c'est la même exposition qui vient à Berkeley ou c'est...
Elle commence au musée de Berkeley. Elle va se déplacer après à New York en passant par d'autres lieux. Et elle va après se poursuivre sous une forme très jolie, je trouve, qui est qu'il y a une organisation à New York qui s'appelle Visual Aids qui leur propose donc de mettre toutes les années, chacune des années de leur chronologie, dans une revue d'art différente. Et donc, le 1er décembre 1990, je crois, le AIDS Timeline va se répandre sur 11 magazines. Donc ça commence en 79 et ça se termine sur 11 magazines d'art qui vont chacun porter 2 pages. Mmh. Et donc en fait l'exposition entière va être reconstituée sur ces 11 magazines. Si vous n'avez qu'un seul magazine, vous n'avez qu'un morceau de l'exposition.
Alors je suis très frappé par ce que vous venez de dire, Elisabeth Lebovici, là aussi en lien avec peut-être le dernier chapitre de votre livre.
Oui.
On peut avoir l'impression que, au-delà des empêchements de la mémoire personnelle et collective, la manière dont l'épidémie de sida revient aujourd'hui, c'est en annonçant un certain nombre d'événements contemporains. Il y a par exemple le retour de la maladie en général, des revendications politiques, certaines revendications effectivement politiques très précises aujourd'hui. Mais il y a aussi, d'après ce que vous venez de dire, finalement, un certain usage de l'image, de la prolifération des images. Et là, ce que vous venez de dire sur 11 galeries, 11 revues, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passerait disons, s'il y avait eu Internet.
Ah.
Parce que, il faut le rappeler pour nos auditeurs plus jeunes, on est en 89, oui. Il y a 30 ans, oui. Il n'y a pas Internet.
Oui.
Ça passe par des galeries, vous travaillez beaucoup sur la matérialité des supports,
oui.
La vidéo
oui.
existe déjà, évidemment,
oui.
Le cinéma.
Oui, parce que si vous voulez,
mais
je pense...
Aujourd'hui,
que
ça se passerait différemment.
Ah,
mais là, c'est une préfiguration presque d'Internet, ce que vous dites. 11 galeries...
Effectivement, il y a une dissémination, ça c'est sûr. Enfin, je pense que les artistes sont très très conscients hein, de ces questions de dissémination. Ils travaillent, enfin, je veux dire, beaucoup de ce qui a été produit dans la lutte contre le sida pour lutter, pour donner des représentations, pour produire des informations visuelles qui étaient nécessaires, en l'occurrence, aux personnes, qui s'intéressent beaucoup justement à la reproductibilité des images, qui vont s'emparer de déjà du trésor d'images qu'ils trouvent. Dans les magazines, papier, sur le papier, pour effectivement les détourner, les utiliser, en montrer la fausseté, etc. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui...
Donc, l'image est un lieu de conflit, finalement.
L'image est un lieu de conflit, c'est évident. Ça fait vraiment partie de l'épidémie. Hein. Mmh. Les questions d'image et les questions de représentation font partie intégrante de l'épidémie. Mmh. Ce n'est pas qu'une... Enfin, le sida, c'est ça, je crois, qui fait aussi son actualité, qui fait que c'est important de s'en préoccuper, enfin, de s'en préoccuper encore aujourd'hui. C'est que c'est pas qu'un fait médical. Mmh. C'est aussi des questions de représentation, dans tous les sens du terme.
Et pas seulement l'image des corps, bien sûr, il y a l'image des corps qui revient très fortement dans le film qu'on évoquait,
oui.
120 battements par minute, qui fait revivre des situations très, très précises, mais il y a aussi l'image des rapports sociaux, l'image des groupes.
Mais bien sûr.
Et ce terme même de ce groupe, je crois que c'est un groupe hein, qui s'intitule, que vous étudiez dans votre dernier chapitre, Image Virus.
C'est en 89
c'est aussi. C'est
aussi
dans les mots eux-mêmes, on vient combiner des choses un peu...
Voilà. Alors ça, c'est un autre groupe qui s'appelle General Idea, qui, là aussi, je crois que c'est vers 89-90, va produire une œuvre qui s'appelle Image Virus. Alors,
c'est une œuvre Image Virus,
c'est
pardon,
une œuvre, c'est une œuvre disséminée. Et qui sont tout simplement... les quatre lettres de l'acronyme AIDS qui remplacent les quatre lettres du mot love d'un tableau très célèbre de Robert Indiana, d'un artiste qui est mort il y a très peu de temps, Robert Indiana, qui avait donc créé un tableau qui était devenu une espèce d'icône. C'était sur des livres, il y avait eu un film qui s'appelait Love Story qui avait repris
le graphisme
de ce tableau. Donc c'était les quatre lettres du mot love en couleur, et donc General Eddy va reprendre et va mettre les quatre lettres de l'acronyme AIDS. Alors je raconte dans le dernier chapitre que ça énerve énormément un certain nombre de militants de la lutte contre le sida qui trouvent que de remplacer love par AIDS, il y a un déterminisme absolument insupportable pour elle et eux. Mais enfin, aujourd'hui, en regardant ça, on peut peut-être penser autrement les choses et effectivement de voir comment cet acronyme, hein, c'est intéressant, ça veut rien dire un acronyme. Et c'est ça qui est très beau.
Oui.
Et ce qu'on peut regarder aujourd'hui...
Ça veut rien dire, mais tout se cristallise parfois
voilà.
autour de ça.
Et effectivement, la lutte, le sida est fait de plein d'acronymes. Plein.
VIH,
on peut aussi... Il y en a énormément. Et même aujourd'hui, en parlant des populations qui sont susceptibles d'être affectées, etc., on parle des MSM, des hommes qui ont des sexes avec des hommes, des FS, enfin, etc.
Il y a
vraiment de l'acronyme partout. Et donc, cet acronyme-là va se répandre donc, sous forme d'affiches absolument partout, sur les murs de la ville, sur les bus, dans le métro, vont être distribués, ça va devenir des logos sur des mugs, etc. etc. Et c'est ça le virus, hein, c'est l'idée de viraliser l'image.
Et donc il faut répondre au virus par un autre virus, un virus actif, cette fois-ci, mais actif au sens de l'activité des hommes, pour essayer de contrecarrer les effets sociaux et les effets médicaux du virus. Oui. On lutte avec les expressions aussi, en les subvertissant, avec une forme d'ironie. Pour jalonner cette conversation, Elisabeth Lebovici, vous nous avez proposé un morceau de musique qu'on va entendre maintenant, et dont le titre, Promised Land, joue peut-être aussi avec une expression canonique.
Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
89, un prisme brisé. Ce soir, 89, le sida, 89 et nous, avec Elisabeth Lebovici, auteure du livre intitulé « Ce que le sida m'a fait » et qui vient de nous proposer, pour jalonner notre conversation, Elisabeth Lebovici, ce morceau au titre ironique, mais peut-être littéral aussi, à prendre au pied de la lettre, « Promised Land ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant de revenir aux images et à l'effet de l'épidémie de sida sur nos représentations aujourd'hui encore? Je n'ose même pas dire 30 ans après, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc,
oui,
sur ce morceau, Promised Land.
Alors bon, c'est un morceau de quelqu'un qui s'appelle Joe Smooth. Et effectivement, j'aime beaucoup ce morceau. Je crois qu'il a été fait un tout petit peu plus tôt. Bon, mais c'est quand même...
Ah non, mais 89, on ne prend
va,
pas...
Ça
non,
va, ça bon, va. Bon, ça va.
89,
je
c'est
peux.
Plus un problème
oui.
qu'une évidence. Bon, hein, donc vous pouvez tout à fait le déplacer. C'est un moment.
Merci, Frédéric.
Je vous en prie, Elisabeth Lebovici.
Évidemment, c'est un titre extraordinairement ironique. Parce que bon, Terre Promise, bien sûr, et qui commence par brother, sister, etc. Mais quand même, ça veut dire quelque chose parce que c'est peut-être pas la famille biologique dont on parle là. Effectivement, c'est la famille, peut-être la famille choisie, hein, de ses frères, ses sœurs, ses époux, etc., que nous choisissons. Et qui sont si importants, hein, dans des moments où on doit tenir les uns et les unes aux autres. Donc je crois
que... Oui, ça n'a pas été la dissolution des relations, bien au contraire.
Ah,
c'est des moments de solidarité.
C'est des moments de solidarité très, très, très importants. Et effectivement, la création de ces associations de lutte contre le sida, c'est aussi l'association qui produit peut-être des familles un peu alternatives, celles que Michel Foucault voulait voir arriver. Et bien sûr, c'est marrant parce que quand on allait dans des soirées, dans les rêves ou dans les boîtes, etc. Bon, il y a eu quand même, ce morceau a été vraiment très très utilisé jusque dans les années 2000. Et donc moi j'aime beaucoup écouter ça. Je trouve ça à la fois ironique, à la fois beau, à la fois un espoir et à la fois une promesse un peu brisée. Comme le titre de votre émission. Mais tout à l'heure, vous parliez de crise des images. Vous savez, 89, c'est aussi le moment où, aux États-Unis, il y a une grave crise des images, puisqu'en fait, c'est le gouvernement, enfin le Congrès américain, et notamment un certain nombre de sénateurs américains qui vont rentrer en guerre contre des images et dire que des images tuent. Enfin, des images, il ne faut plus les voir.
Les images des corps malades, mourants, des images revendiquées politiquement par d'autres.
Des images revendiquées, et surtout des images de corps qu'ils ne veulent absolument pas voir, parce que c'est des corps qu'il faut absolument rendre invisibles. Alors, c'est 89, c'est la guerre, vraiment, et la censure, et la volonté de censurer donc l'œuvre de Andrés Serrano qui s'appelle Peace Christ, hein, qui a été faite bien avant mais qui là est en train de circuler et donc qui devient un objet absolument impossible. C'est donc un crucifix qui a été plongé dans un liquide qui l'artiste dit être de la pisse mais qui est éclairé. Enfin, c'est une photographie sur...
Vous consacrez un chapitre sur la question du liquide aussi, des liquides corporels, qui pour vous devient problématique évidemment dans cette période et que cette œuvre veut sans doute
exactement
faire voir d'une manière certes tendue
mais voilà. Et puis c'est la guerre contre Robert Mapplethorpe qui vient de mourir en 89 et donc il y a une exposition qui lui est consacrée, The Perfect Moment, le moment parfait, qui va être qui va avoir des sérieux problèmes puisque ça va aller quand même jusqu'à la mise en examen du conservateur de cette exposition.
Vous rappelez que c'est donc un photographe qui représente les sexes masculins.
Voilà, qui représente les sexes masculins. Alors on peut dire après beaucoup de choses parce que c'est des sexes d'hommes noirs et qu'il y a aussi une révolte.
Cette controverse.
Voilà, il y a aussi cette controverse contre la façon dont le photographe s'est emparé de ces corps et les a à nouveau, on pourrait dire, réduit à des objets. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Là, c'est vraiment le Congrès américain certains membres du Congrès américain et un certain nombre d'associations familiales, la Manif pour tous de l'époque, hein, qui décide donc de s'insurger contre ces images. Et donc c'est un moment où, effectivement, qui va devenir très, 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 très violent pour les artistes, où ils et elles vont avoir quand même, il y en a quatre qui vont être terriblement inquiétés, ils et elles vont avoir quand même à se justifier de faire des images et on va pouvoir interdire des images. C'est aussi le moment 89 où donc un artiste, David Wojnarowicz, écrit un texte de catalogue pour une exposition qui a lieu là encore en 89, dans un espace alternatif à New York, Artist Space, qui a été organisé par la photographe Nan Goldin, et qui s'appelle « Témoins contre nos disparitions », qui raconte justement en images les cas de 24 ou 25 artistes entre un séropositif ou mort. Et donc, ce texte de catalogue va faire l'objet d'une énorme polémique. Donc, c'est le moment où, effectivement, les images sont attaquées, véritablement.
Mais alors, Elisabeth Lebovici, il y a quelque chose de paradoxal, on en parlait déjà avant d'entendre La Terre Promise, si j'ose dire. Il y a un contraste qui annonce notre époque d'aujourd'hui. D'un côté, l'épidémie du sida reste comme une sorte de phase d'ombre de ces années 80-90, avec en incarnant d'ailleurs à l'extrême tous ces aspects sombres, y compris dans la lutte contre les priorités des laboratoires pharmaceutiques, de l'économie de la santé, etc.
Absolument.
Et d'un autre côté, ce que rappelle votre livre, au-delà même de l'action politique, c'est que c'est aussi le lieu d'un activisme, c'est le sous-titre d'ailleurs de votre livre, et vous êtes historienne aussi de l'activisme artistique, un activisme qui passe par l'art. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette coexistence qu'on observe aussi aujourd'hui finalement de crises profondes, d'ébranlements très profonds qui passent par la maladie, d'un côté, de l'autre côté, par un réveil de l'expression, de l'association, aussi de la contestation, et donc aussi du conflit, mais finalement d'un conflit au moins qui passe par le discours, qui permet de dépasser des conflits silencieux, des guerres invisibles.
Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je constate effectivement qu'à ce moment-là, alors, et de ces façons-là, c'est-à-dire avec des technologies qui sont à la disposition de tout le monde, la photocopie, le fax, le téléphone, la rue, les banderoles, enfin, et un certain nombre d'actions corporelles comme ça. Et oui, il y a deux champs qui se rejoignent, hein, le champ politique, on pourrait dire, et puis le champ artistique. Heureusement. Enfin, ce serait quand même triste, et je crois que ça l'a toujours été. Enfin, le champ artistique est quand même non pas dépendant du champ politique, mais il a affaire sans arrêt, ne serait-ce qu'à la politique des images.
Bien sûr, on peut considérer que c'est une forme de c'est tout à fait général. Il y a toujours eu un enjeu politique de l'art, pour le dire en termes très scolaires. Mais est-ce que là, il n'y a pas plutôt une sorte de tension extrême entre une réponse par l'expressivité directe au fait de prendre de plein fouet, comme vous le disiez au début, cette sidération, cette sorte de tension qu'on retrouve aujourd'hui entre des événements un peu sidérants, et d'autre part une créativité qui revient. Je dis pas qu'il faut de la sidération pour créer, mais
non,
ça va un peu plus loin.
Je pense que la création vient après la sidération, d'une part. Et puis, d'autre part, je pense que ça se fixe. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, ça se fixe sur les mêmes objets. Mais il se trouve que les images sont effectivement un lieu de guerre, on peut dire, presque. Hein. Et il y en a eu d'autres. Mais là aussi, il y a ce moment de guerre des images où, effectivement, par exemple, pour vous donner un exemple, dans les années 80, les seules images qui sont montrées des gens du sida, c'est une espèce d'une image de virus à laquelle on comprend absolument que dalle, et d'autre part des images absolument atroces, des photographies absolument atroces de personnes avec le sarcome de Kaposi, enfin des visages complètement déformés ou des espèces de Christ en train de mourir, maigre à l'extrême, etc. Des images très tragiques finalement des malades
qui existent aussi,
et puis c'est tout. Parce que ça fait peur. Et du coup, il y a une volonté de ne pas voir et de repousser dans une sorte d'invisibilité toutes les personnes malades ou séropositives. Donc, face à ça, il faut produire des choses. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi il y a une épidémie d'images aussi qui se produit justement pour résister et pour contrer ces représentations que les médias propagent, que la télévision propage, mais contre laquelle on est un peu obligé de s'ériger. Donc, je pense que c'est vraiment cette conjonction-là qui crée ce pullulement, qui n'est pas énorme non plus, mais en tout cas, c'est ce pullulement créatif de la part d'un certain nombre d'artistes ou de personnes liées aux arts qui, effectivement, se saisissent de leur culture pour produire ces contre-images. C'est une contre-culture qui est nécessaire.
Est-ce que pour vous, Elisabeth Lebovici, donc vous dites il y a effectivement il y a des moments de crise. Est-ce que il y a structurellement des domaines de la vie sociale qui sont invisibles ou qui sont invisibilisés socialement et que le rôle de l'art est de rendre visible? On pourrait penser qu'il y a un premier féminisme, disons dans la revendication plutôt positive, qui a pas besoin entre guillemets d'une maladie terrible pour s'exprimer. Dans les années 80-90, ça passe par cette maladie. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a besoin de nouveau de manifester ces poches d'invisibles. Est-ce que pour vous, c'est le rôle de l'art de rendre visible? Est-ce que c'est un rôle structurel ou est-ce que c'est historique selon les moments?
Je pense que c'est très conjoncturel et très historique selon les moments. On voit aujourd'hui, vous parliez du féminisme, comment un hashtag produit de la visibilité. MeToo, enfin je veux dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la visibilité,
de la dissémination. L'acronyme, pour vous, l'hashtag, l'acronyme, finalement, c'est déjà de la création esthétique en un certain sens.
Je sais pas
c'est
si
pas esthétique, mais en tout cas, c'est de l'image.
Oui, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui s'offre à dissémination, qui s'offre à reproduction, qui s'offre à dissémination, qui s'offre à appropriation aussi assez rapide. Hein. On voit comment tout d'un coup un acronyme, enfin ou un hashtag, se dissémine et devient effectivement un mot d'ordre politique. Alors après, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il n'est pas efficace? Bon, l'avenir le dit. Mais je trouve ça assez fascinant de voir effectivement comment. C'est comment un acronyme peut devenir un objet de dissémination, comme un hashtag peut devenir objet de dissémination. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui beaucoup, je ne sais pas sur Internet ce que ça ferait. Il y a sur Instagram, en tout cas, moi, je suis un compte qui s'appelle AIDS Memorial et qui est un compte tout à fait extraordinaire que je vous engage à regarder.
Alors, AIDS Memorial.
Ouais. Et en fait, c'est un compte qui où des gens. Bon, là encore, des gens vont poster des photographies, des vieilles photos, des photos moches de gens, justement, qui sont probablement morts avant Internet, avec 400 mots de biographie de ces personnes, une biographie affective. Et donc, en fait, tous les jours, il y a 10, 20, 30, 40 posts où on voit, vous savez, ces moches photos avec des moches couleurs, des vieilles photos.
Qui sont tout à coup numérisées, qui plus est. Donc, il y a un contraste entre deux techniques, entre deux époques, finalement.
Exactement.
Visible à même l'image.
Exactement. Et puis, des gens qui racontent, alors c'est un amant, un ami, un frère, une sœur. Beaucoup d'oncles, je ne sais pas pourquoi, les familles, c'est toujours des oncles, hein, qui, tout d'un coup, vont tomber malades et avec des histoires assez affreuses parfois, ou pas, ou très heureuses, vont mourir. Et donc, c'est vraiment les derniers moments de ces personnes, ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a un énorme nombre, et c'est là aussi le tribut.
Donc, pour vous, historienne de ces représentations, les outils nouveaux d'aujourd'hui font ressurgir des poches de passé enfouies.
Vous savez, il y a deux choses qui sont quand même très frappantes, c'est que, bon, en tout cas, dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Et donc, effectivement, il n'y a pas énormément de façons de montrer qui étaient les personnes qui sont mortes du sida à cette époque-là. Et puis, il n'y avait pas non plus cette folie où tout le monde se photographie du selfie, où les gens se photographiaient, bon, à cause d'Internet aussi, la folie de se photographier soi-même. Et effectivement, il y a très peu d'images. Et puis aussi, on ne les trouve pas sur Internet parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes très jeunes et qui n'ont donc pas fait grand-chose, même si je prétends dans mon livre que toute une façon de faire de l'histoire de l'art en France a été complètement escamotée par la génération qui manque, qui est celle de l'épidémie, ou de faire de l'art d'ailleurs, mais enfin ça c'est une autre question. Mais voyez, c'est une façon de montrer des archives invisibles. Vous parliez d'invisibilité.
Des archives invisibles, c'est
ouais.
Vrai.
Tout d'un coup, ces invisibles, aux yeux des archives, deviennent visibles.
Mais alors, pour boucler, parce que le temps passe très vite, là encore, Elisabeth Lebovici, quand je suggère dans le titre de l'émission 89, un prisme brisé, est-ce que pour vous, il ne faut pas l'assumer comme tel? Est-ce que ce moment, avec toutes ces tensions, donc, est-ce qu'il ne doit pas encore, justement, nous orienter, mais justement, sans le réidéaliser, sans non plus renoncer au combat de l'époque, peut-être même à la question des droits et à la question de la démocratie. Mais comment est-ce que vous serviriez aujourd'hui du prisme de votre livre aussi, qui est déjà brisé finalement, éclaté, pour éclairer le présent aujourd'hui, en 2019?
Je pense qu'en tout cas, il est à la mesure de nos contradictions d'aujourd'hui, de nos inquiétudes d'aujourd'hui, qui sont elles aussi fortement brisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, de s'apercevoir que ce moment de 89, personnellement, j'ai assez oublié les commémorations de 89.
Le bicentenaire en lui-même.
Le bicentenaire en lui-même. Bon, mais bien sûr, c'est un moment où effectivement, bon, deux petites choses que j'ai à dire. D'abord, moi j'étais à l'époque tellement prise par l'épidémie, par un monde que je n'ai pas du tout vu ce qui s'est passé là. Bien sûr, la chute du mur, je l'ai vu, mais
les Champs-Élysées, c'était pas forcément.
Non. Voilà. Enfin, je me souviens vaguement, Jean-Paul Goude, etc. Mais c'est surtout cette rupture, alors complètement mondiale, qui va ouvrir vers la mondialisation. Quand même, on la ressent 10 ans plus tard, quoi. Hein. Donc, je crois effectivement que c'est important de garder, si vous faites une histoire de 89 dans votre émission, de garder ce côté fragmenté, de garder ce côté peut-être peu chronologique, de garder ce côté où on ne se souvient pas très bien c'était avant.
Je ne me souviens pas par lequel vous complétez délibérément Pérec, finalement.
Voilà, je ne me souviens pas par lequel, finalement, on peut se souvenir d'événements comme étant ceux de 89 qui étaient en 95 ou en 85, peu importe, mais cette idée effectivement qu'il faut que les tensions et les contradictions sont bien entendu des objets à penser.
Il faut se souvenir de ces contradictions et pas d'une évidence trop simple, mais pas non plus effacer ce moment. Vous êtes historienne malgré tout, Elisabeth Lebovici, l'histoire continue à exister pour vous.
Oui, absolument. Enfin, histoire de l'art, hein, je suis historienne de l'art.
Encore plus important. C'est en tout cas, ça fait partie de l'histoire.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, je sais pas, il y a 89, c'est aussi un moment où un très 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 grand critique d'art, historien d'art, activiste, Douglas Crimp, écrit un article qui s'appelle Mourning and Militancy, le deuil et l'activisme. Et là encore, pour parler de choses brisées, il dit dans la lutte contre le sida, on a essayé d'écarter le deuil par l'activisme, on a essayé surtout de ne pas penser au deuil par l'activisme, et là je pense qu'il faut changer. Il faut reprendre cela, et je crois que ça a beaucoup à faire avec notre histoire. Exactement. Et effectivement, de penser le deuil comme un activisme aussi, hein, et de penser le deuil avec l'activisme. Le deuil est un activisme d'un certain point de vue.
Nous sommes pris entre les deux, mais c'est de ne pas sacrifier l'un à l'autre, finalement.
Voilà, et surtout d'essayer de repenser les relations de l'un à l'autre, et ça, je crois que ça parle beaucoup de la fragmentation dont vous, de ce 89 brisé dont vous parlez.
Ce que vous dites est très frappant, Elisabeth Lebovici. Ce lien entre deuil et activisme, c'est, si j'étais très caricatural, on pourrait dire que c'est la tension même entre la vie et la mort, finalement, et que l'épidémie du sida, dans cette tension-là, donne les coordonnées de ce que nous vivons 30 ans plus tard, dans tous les domaines.
Voilà. Et l'idée aussi que le deuil, c'est pas seulement le deuil des personnes, c'est aussi le deuil de choses qu'on a pu faire et qu'on ne peut plus faire.
Le deuil d'une vie interrompue, mais que certains reprennent grâce à l'histoire, grâce à ces archives de l'invisible, qui sont aussi l'ouverture de l'avenir et en tout cas du présent. Merci beaucoup, Elisabeth Lebovici. Matière à penser, c'était notre dernière discussion pour savoir si 89 est un prisme brisé ou encore lumineux pour éclairer le présent. Ce soir, c'était avec Elisabeth Lebovici, historienne de l'art. C'était avec et grâce aussi à Jean-Michel Bernon, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous avec René Friedman à partir de lundi prochain. Merci et à bientôt.